Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dialan.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Le sujet du jour n'est pas le plus simple à aborder puisque nous parlons aujourd'hui des soins palliatifs et de ce que veut dire la fin de vie en médecine. Heureusement, je suis bien accompagnée puisque ma co-animatrice, le médecin Dialan Augier, est là et que nous recevons le docteur Isabelle Mangola de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Bonjour.
Bonjour.
Pour rentrer dans l'émission, un peu de contexte, les soins palliatifs, qu'est-ce que ça veut dire déjà ?
Alors, les soins palliatifs, c'est une prise en charge globale du patient, de sa famille, des parents les plus proches, qui s'adresse aux patients en fin de vie ou aux patients de toute façon atteints de pathologies incurables. Ils peuvent intervenir à différents moments. On a souvent une vision uniquement s'adressant aux patients en fin de vie, mais à partir du moment où un patient présente une pathologie incurable dont on sait que à plus ou moins long terme, effectivement, il sera ce qu'on appelle en fin de vie, il peut bénéficier d'une prise en charge un petit peu plus globale que uniquement technique, voire beaucoup plus globale.
Oui, en fait, le but des soins palliatifs, c'est pas de guérir, mais ça va être de soulager.
Ça va être de soulager, ça va être d'accompagner. Hein. Effectivement, l'approche de la fin de vie, l'approche de la mort, c'est quand même tout un processus. Donc, on parle de soins palliatifs et de soins d'accompagnement. C'est essentiellement accompagnement. Aider les personnes et leur entourage à cheminer. Et puis, évidemment, soulager quand il y a des symptômes d'inconfort, que ce soit la douleur le plus connu, mais il y en a d'autres. Soulager la souffrance psychique aussi, aider au travail nécessaire d'approche de la mort.
Et justement, concrètement, comment on fait pour soulager la souffrance ? Alors, physique, on arrive peut-être à l'imaginer, mais psychique, et j'ai vu sur Internet, spirituel, parfois social.
Voilà. La prise en charge en médecine palliative, on parle plus de médecine palliative que de soins palliatifs maintenant, voilà, est une prise en charge globale, donc effectivement au niveau culturel. L'approche de la mort, l'approche de la fin de vie n'est pas la même en fonction de la religion, en fonction du vécu personnel, en fonction du milieu culturel, des capacités d'élaboration et de réflexion. Donc, à nous, à l'équipe de professionnels, de s'adapter. Et effectivement, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Il n'y a pas que des médecins, loin de là. On a aussi des équipes de psychologues, il y a des infirmières, il y a évidemment aussi des assistantes sociales. Parce que forcément, la maladie va impliquer des modifications dans le quotidien qui vont faire que les gens peuvent être en difficulté. On priorise aussi des prises en charge non médicamenteuses avec des techniques complémentaires. Plein de prises en charge qui vont aider les personnes à se poser, à réfléchir et puis petit à petit à accepter l'approche de la mort. Beaucoup connaissent différentes phases. Elles sont bien décrites dans la littérature, avec au départ une phase de déni, et puis une phase de colère, une phase d'espoir, une phase d'acceptation. Voilà. L'objectif est d'aider les gens à cheminer. On n'arrivera jamais à enlever la phase de colère ni la phase de déni. Après, chacun chemine à sa vitesse. L'objectif d'une équipe palliative est d'accompagner le mieux possible jusqu'au bout.
Sur le terrain, comment s'effectue la prise en charge des patients ?
Sur notre région, dans l'Ain, nous avons la chance d'avoir une équipe palliative complète. Donc effectivement, il y a différentes possibilités. Il existe une unité d'hospitalisation spécifique avec des professionnels formés à ces prises en charge qui ne géreront en hospitalisation que les cas les plus complexes. Il existe également une équipe mobile de soins d'accompagnement et de soins palliatifs qui est mobile à la fois en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Donc, nous pouvons nous rendre à domicile chez les patients. Nous pouvons nous rendre également dans les établissements qui le demandent, en EHPAD, en autres établissements médico-sociaux, dans d'autres hôpitaux qui n'ont pas cette structure interne d'hospitalisation. Voilà. Nous avons également une équipe d'hospitalisation à domicile. Alors là, c'est l'hôpital qui se déplace chez les gens, qui peuvent donc rester parfois jusqu'au décès, hein, selon leur souhait, à domicile avec toute la structure organisationnelle de l'hôpital qui vient aider à la coordination. Voilà. Il existe aussi, alors on ne l'a pas encore à Bourg-en-Bresse, mais de plus en plus se développe un système d'hospitalisation de jour, c'est-à-dire que les gens effectivement viennent à l'hôpital classiquement, comme on le connaît maintenant, un hôpital de jour, c'est-à-dire du matin jusqu'en fin d'après-midi, pour régler différentes problématiques et peuvent rentrer chez eux à domicile. C'est une possibilité qu'on est en train d'envisager sur l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et puis évidemment, il y a tout le système de consultation.
Alors, on a parlé de la fin de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible en France pour les patients, pour gérer cette fin de vie ?
Beaucoup de choses déjà qui manifestement ne contentent pas suffisamment une partie de la population, puisqu'il y a beaucoup de réflexions et de travail à ce sujet. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes contraints par une loi qui date de 2016, qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti, hein, qui a fait suite à la première loi de 2005, en l'améliorant un petit peu, enfin en l'élargissant en tout cas. Donc, à ce jour, en France, l'aide médicale à mourir est interdite, illégale. Hein. Donc, ce qui est en cours actuellement, c'est une modification de la législation, effectivement. Mais à ce jour, l'aide médicale à mourir, qu'elle soit par l'euthanasie ou par le suicide assisté, pour l'instant, n'est pas autorisée en France. Pour l'instant, il existe toujours une pénalisation de l'aide à mourir. Voilà. Par contre, la loi Claeys-Leonetti nous permet réaliser ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, la loi encadre de façon très très précise ce geste, hein, qui s'adresse à des personnes qui ont une pathologie incurable évolutive, avec des symptômes réfractaires, et alors que l'espérance de vie est très limitée. Hein. L'espérance de vie à très court terme est engagée. Voilà, c'est ce qui apparaît, ce qui est écrit dans la loi. Alors, pathologie incurable, évolutive. Beaucoup de gens pensent au cancer, mais il n'y a pas que le cancer. Hein. On a aussi des pathologies chroniques qui sont malheureusement très fréquentes, hein, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, des pathologies neurologiques évolutives. Je parle en conscience de ces pathologies démentielles notamment, puisque au regard de la législation, il faut bien évidemment que la demande vienne de la personne concernée. Beaucoup, dont les personnes qui décrivent la loi actuelle, estiment qu'effectivement, à partir du moment où la personne n'est plus en capacité de décider pour elle-même, l'application est très complexe. Mais le législateur a prévu, puisque dans cette loi Claeys-Leonetti, on nous parle de directives anticipées, de personnes de confiance, et qu'effectivement, ce sont des possibilités pour les personnes malades concernées de préciser leurs souhaits, ce qui est très difficile, effectivement. Moins de 2% de la population en France s'est saisie de cette possibilité, puisque on peut avoir des opinions sur sa propre fin de vie quand on est en bonne santé, puis se rendre compte, et c'est notre quotidien, que finalement, la maladie arrivant, on s'adapte et on peut changer d'opinion. Il faut savoir quand même que ces directives anticipées, elles sont révocables à tout moment et que ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Mmh. Voilà. Et la notion de personne de confiance, alors là, quand effectivement, on n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, eh bien, si on a pu anticiper les choses et choisir une personne de confiance, cette personne de confiance, elle se doit de transcrire, de transmettre aux soignants les volontés de la personne malade, lorsqu'elle aurait anticipé la fin de vie avec malheureusement la possibilité de ne plus pouvoir s'exprimer.
Sur le principe de sédation profonde et continue, qu'est-ce qui différencie ça des autres possibilités, enfin des possibilités qui existent dans les autres pays? Vous avez failli évoquer la Suisse, où là on a le suicide assisté, c'est ça? C'est quoi la différence du coup?
La différence principale, c'est l'intentionnalité. Et ça, c'est très bien décrit dans la loi, avec la description de la possibilité du double effet des médicaments qui sont utilisés pour faire la sédation profonde. L'intentionnalité, aujourd'hui, dans la sédation profonde et continue, c'est de soulager le patient, même si on peut être amené à utiliser des posologies de thérapeutiques qui peuvent entraîner le décès. L'intentionnalité, c'est de soulager le patient, c'est son confort. L'intentionnalité n'est jamais de tuer le patient. Jamais. Voilà. Et effectivement, l'évolution de la loi à venir, qu'on attend avec impatience, hein, puisqu'elle devrait, arriver fin juin, début juillet, enfin la proposition de loi en tout cas, effectivement, là, on change complètement de paradigme avec l'intentionnalité, effectivement, de supprimer la vie.
Avec votre œil expert et puis avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que tout ce qui est déjà mis en place en France, est-ce que ça semble suffisant, finalement, pour bien prendre en charge les patients en médecine palliative?
Dans ma pratique quotidienne, j'ai très rare, jamais, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en soins palliatifs, pas rencontré de difficultés majeures, à partir du moment où le patient adhère aux propositions de l'équipe soignante. Effectivement, pour des raisons intellectuelles, culturelles, que je ne commenterai pas, hein, que l'on se doit de respecter, certaines personnes vont refuser les antalgiques, vont refuser l'accompagnement psychologique. Et effectivement, nous mettent en difficulté dans notre pratique quotidienne parce qu'on ne peut pas utiliser tout l'arsenal qu'on connaît et qui est légal en France. Donc effectivement, dans ces situations, on est mis en difficulté et la législation actuelle ne permet pas de satisfaire tout le monde. Ça reste quand même des exceptions.
Vous l'avez dit, hein, le sujet est vraiment d'actualité, hein, puisque le président Macron souhaite la mise en place d'un plan pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs. Donc, il a tiré au sort 184 citoyens qui ont planché sur le sujet. Pour le moment, a priori, pas grand-chose n'en est sorti publiquement, en tout cas, si ce n'est la volonté du président de la République de créer un modèle français de la fin de vie. Qu'est-ce que vous en savez ?
Alors, j'ai eu la chance, effectivement, de participer à un congrès semaine dernière avec la présidente de la Société française de soins palliatifs, le docteur Claire Fourcade, et en présence également de la ministre déléguée à la Santé et au Handicap, Madame Firmin Le Bodo, qui nous a donné quelques informations, effectivement. Alors, modèle français en opposition aux autres peut-être, enfin pour se démarquer en tout cas, pas être en opposition. Il faut savoir par exemple que en Belgique, qui a légalisé l'euthanasie, la mise en place des soins palliatifs a été a posteriori, par exemple. Hein, alors qu'en France, les soins palliatifs existent depuis une bonne vingtaine d'années, voire plus. Donc voilà, on se différencie. D'autres pays ont légalisé soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, mais et au sens de beaucoup de gens travaillant en soins palliatifs, c'est une déviance parce que ce ne serait plus uniquement à la demande du patient, mais à la demande des proches. Donc là, effectivement, ça pose question. Donc, dans le sens de modèle français, il me semble que le président a bien pris en compte le fait que les soins palliatifs existent en France de façon bien antérieure à une éventuelle légalisation de l'aide médicale à mourir, d'une part. D'autre part, si j'ai bien compris les propos de la ministre, le choix est fait de prioriser et de mettre encore l'accent sur des moyens dédiés aux soins palliatifs, dédiés au développement de ces soins palliatifs, déjà qu'il y en est dans toutes les régions, dédiés aussi à l'acculturation de la communauté soignante à ces soins palliatifs, avec un versant qui débuterait dès la faculté. Hein, puisqu'il faut savoir quand même qu'en France, à ce jour, sur toutes les études médicales, les étudiants en médecine et les internes qu'on voit tous les jours dans nos services nous le disent, ils doivent avoir environ 2 heures de cours sur les prises en charge palliatives, ce qui, bien évidemment, est totalement insuffisant. Voilà, donc très large. Et puis, modèle français... parce que certaines lignes qui ont été franchies par certains pays ne le seront pas en France. Le président l'a mis dans le cahier des charges, hein, c'est-à-dire que ça ne concernera pas les mineurs, ça ne concernera pas non plus les adultes qui ne seraient plus en capacité d'exprimer leur volonté s'ils ne l'ont pas fait avant. Voilà. Et puis, mettre en avant bien évidemment les soins palliatifs, puisqu'au quotidien on se rend compte que beaucoup de personnes qui peuvent réclamer une aide médicale à mourir, qui sont même allées, qui ont fait des démarches à l'étranger, à partir du moment où ils bénéficient de soins, d'une prise en charge palliative de qualité, qu'ils n'ont plus de douleur et qu'ils sont accompagnés sur le plan social, psychique, ne demandent plus du tout d'aide médicale à mourir et ne demande pas, alors qu'il pourrait y avoir accès, une sédation profonde et continue. Et
c'est ce que vous disiez aussi. En fait, pour moi, l'apprentissage de la médecine, ça a vraiment été une démarche progressive, aussi philosophique et réflexive. Et on part du postulat qu'on va soigner, dépister, guérir, la notion de cure, comme vous disiez, docteur Mangola, mais aussi finalement soigner, accompagner la vie jusqu'au bout quand on ne peut pas guérir. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fil du temps, je trouve, pendant nos études. Donc la notion de care, de prendre soin, sans curer finalement, sans guérir parfois. Et du coup, puisque la médecine ne peut pas tout, est-ce qu'il y a plus bel investissement, plus beau cheval de bataille que de soulager dans la dignité et dans la vie jusqu'au bout ? Ça, c'est la question. Et enfin, j'ai répondu déjà à cette question, mais pour moi, c'est ça le plus important.
Je n'envisage pas d'accompagner les patients que j'ai pu rencontrer autrement que d'une façon globale et autrement que jusqu'au bout. Je crois qu'effectivement, il y a eu une évolution sur les 50 dernières années au niveau médical, avec des progrès techniques absolument extraordinaires qui nous ont fait croire, parce que ben, on avait vraiment envie d'y croire, que la science pouvait tout et que l'être humain était plus fort que la nature et plus fort que tout. Il s'avère, et malheureusement l'épidémie récente nous l'a prouvé, qu'effectivement on sait encore pas tout et que avec une petite bactérie ou un petit virus de pas grand-chose, malheureusement, il peut être plus fort que nous. Ça a été une grande claque, je pense, hein, dans la population générale, dans le monde soignant aussi, d'être à nouveau confronté à la mort avec cette intensité, cette fréquence. J'espère qu'il y aura, je crois le croiser déjà au quotidien, une prise de conscience. Et effectivement, l'être humain n'est pas qu'un ensemble d'organes, mais qui doit être pris en charge dans sa globalité, à la fois physique, psychique et sociale.
Merci à vous pour cet échange. Isabelle Mangola, je rappelle que vous êtes médecin au sein de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Fleuria de Bourg-en-Bresse.
Je vous remercie.
C'est la fin de ce numéro. On se retrouve le mois prochain sur Radio B.
Prenez soin de vous.
Quoi de neuf, Doc ?
Le 4e vendredi du mois sur Radio B.